Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera où vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent de manière plus ou moins pertinente, mais toujours dans 24 notes secondes depuis un sacré bout de temps. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons inaugurer une formule inédite, puisque à ma connaissance, et comme c'est moi qui fais l'émission, je devrais le savoir quand même, à ma connaissance, c'est la première fois que nous allons consacrer une émission à un producteur, c'est-à-dire ni un réalisateur, ni un acteur, ni une actrice ou un compositeur, mais un producteur dont on oublie souvent qu'ils sont le nerf de la guerre du cinéma et que beaucoup d'entre eux ont laissé leur marque sur les films, parfois même plus que les réalisateurs qui ont réalisé les 10 films, voire les acteurs et les actrices qui les ont interprétés. Et ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière très disparate de Carlo Ponti. En fait, car Signore Carlo Ponti, un homme né le 11 décembre 1912 à Magenta, qui se trouve en Lombardie, si vous l'ignoriez, et mort le 10 janvier 2007 à Genève, en Suisse, ce qui est quand même le signe d'une progression relativement importante sur le plan social et financier, puisque Carlo Ponti, qui a produit beaucoup de très bons films, et on va en avoir quelques exemples dans cette courte émission, a fait fortune, il faut bien le dire, dans le domaine du cinéma. Sa carrière, il l'aura commencé pourtant dans un contexte difficile, en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il crée à Milan une société de production dont le premier long métrage est signé de Mario Soldati, un réalisateur solide des années 40 et dans lequel on retrouve Alida Valli qui, quelques années plus tard, rencontrera un grand succès avec le Senso de Luchino Visconti. Bref, et pour le faire court, dans les années 40, pendant la guerre et après la Seconde Guerre mondiale, malgré le contexte italien important très difficile, Carlo Ponti réussit à s'imposer et jusqu'aux années 2000, il va produire quelques films tout à fait importants. Et on va écouter un, hélas, très court extrait d'un chef-d'œuvre. Il y a quelques chefs-d'œuvre dans la carrière de Carlo Ponti, mais celui-là en est un. Absolument. Un film de Federico Fellini tourné en 1954, donc parmi les premiers films de Federico Fellini, on retrouve dans les principaux rôles Giulietta Masina, qui était à l'époque, et elle est restée, l'épouse de Fellini, et à ses côtés, aussi étonnant que cela paraisse, Anthony Quinn et Richard Basehart, deux acteurs américains, même si les origines d'Anthony Quinn sont plus complexes que cela, dans une coproduction, puisque Carlo Ponti aussi a fait beaucoup dans la coproduction, entre les États-Unis et l'Italie. Alors on pouvait craindre justement un peu que cette production soit un peu bancale, mais il n'en est rien, ne serait-ce par les grâces de la post-production, puisque en Italie les voix sont toujours synchronisées, donc il n'y avait aucun inconvénient à faire jouer des acteurs américains avec une actrice italienne. Et la musique de ce film, c'était non pas le début, mais la confirmation d'un partenariat qui là encore se poursuivra jusqu'à la mort d'un des deux protagonistes. Hélas, le premier à décéder, ce sera Nino Rota. Federico Fellini lui survivra quelques années et on va donc écouter un extrait de cette bande originale La Strada, Fellini, Nino Rota dans 24 notes secondes.
Thank you.
Vous excuserez la qualité, entre guillemets, la qualité d'époque de cet extrait de la partition de la musique de Nino Rota pour La Strada de Federico Fellini, un film dans lequel Giulietta Masina fut comparée à un charlot féminin. Et effectivement, il y avait beaucoup de charlot à la fois dans la démarche et dans la poésie volontariste de la dite Giulietta, qu'on retrouvera dans d'autres films de Fellini, bien sûr, et notamment dans Juliette des Esprits, où elle tient le rôle principal dans La Nuit de Cabiria. Bref, cette émission n'est pas sur Fellini, mais sur Carlo Ponti, qui avait été le coproducteur de ce film avec un autre géant de la production italienne et qui lui aussi s'illustra à l'international, Dino De Laurentiis, sur lequel aussi on fera peut-être une émission, ma foi. Ça permet de varier les plaisirs et on va rester en 1954 en écoutant un extrait de la bande originale d'un film adapté d'une sorte d'histoire pas très connue qui s'appelle L'Odyssée, qui a été écrit par un type, enfin soi-disant écrit par un type qui s'appelait Homère, qui était aveugle, donc on ne sait pas très bien comment il a écrit, mais bref, je passe les détails. Et donc en 1954, Mario Camerini n'était pas le premier à s'attaquer à l'Odyssée et il a centré son film sur Ulysse, le personnage clé évidemment de l'Odyssée. Le film d'ailleurs s'appelle Ulysse, vous l'auriez deviné. Et le rôle d'Ulysse est tenu par Kirk Douglas et ma foi, ben c'est Kirk. Donc évidemment, il s'en tire avec les honneurs. Là encore, une coproduction un peu bizarre entre les États-Unis et l'Italie. La Grèce, ma foi, ce sera pour une autre fois. Aux côtés de Kirk Douglas, il y a Silvana Mangano, qui joue le rôle de Circé, Alia, et aussi de Pénélope, ce qui est quand même assez rigolo quand on connaît l'Odyssée. Et puis, il y a Anthony Quinn, quelques autres un peu moins connus, et notamment aussi des personnages peut-être un peu moins connus. La musique du film, elle est signée d'Alessandro Cicognini. Alors ça sent bon l'italien, effectivement. Alessandro Cicognini fut un des piliers de la musique de film des années 50-60. C'est à lui notamment qu'on doit les musiques des premiers Don Camillo. Mais ceci est une autre histoire. Restons avec Ulysse, donc Mario Camerini, 1954 dans 24 notes secondes.
Thank you.
de puissants et originaux cuivres pour un extrait signé Alessandro Ciccolini de la bande originale d'Ulysse, un film de Mario Camerini tourné en 1954, un film produit par Carlo Ponti auquel nous consacrons ce jour cette émission de 24 notes secondes. Alors, quelques mots sur la vie privée de Carlo Ponti parce qu'elle a une influence sur sa vie professionnelle. En 1946, il avait épousé Giuliana Fiastri, de laquelle il eut deux enfants, mais en 1951, il fut, peut-être pas le mot adéquat, mais en 1951, il fut membre du jury d'un concours de beauté, le fameux concours de beauté Miss Italie, il y remarqua une jeune fille de 16 ans nommée Sofia Ciccolone. Ciccolone, d'ailleurs la suite explique pourquoi elle changera de nom, Sofia Ciccolone, il lui propose quelques rôles et puis l'un dans l'autre, eh bien, il lui demande aussi de changer de nom et de Sofia Ciccolone, elle devient Sofia Loren, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit. Sofia Loren, avec laquelle Carlo Ponti entretint une vie relativement tumultueuse, puisque dans les années 50, en Italie, avant Vatican II, le divorce, c'est pas question. Donc, Carlo se marie au Mexique. Il est accusé de bigamie en Italie. Et ce n'est qu'en 1965 que ces deux-là, en 1966 même, que ces deux-là pourront enfin se marier et couler des jours heureux, puisque là encore, jusqu'à la fin des jours de Carlo Ponti. Sofia, elle est toujours avec nous, heureusement. Et bien là encore, jusqu'à la fin des jours de Carlo Ponti, ces deux-là vivront confortablement et en plus, ils deviendront même français, mesdames et messieurs, puisque en 1966, à la demande du président de l'époque, eh bien, ils sont naturalisés tous les deux français. Ce qui ne les a pas empêchés de finir leur vie en Suisse. Mais en tout cas, évidemment, Carlo Ponti produira beaucoup de films dans lesquels Sofia Loren tiendra la vedette. Et on écoutera un extrait d'un de ses films à la fin de cette émission. On va écouter maintenant un extrait d'un film tourné en 1961. Et pour illustrer donc la variété des implications de Carlo Ponti, un film de Jacques Demy, dans le rôle principal duquel on trouvait Anouk Aimé, qui jouait le rôle titre, comme l'on dit, de Lola. C'était le titre du film. À ses côtés, Marc Michel, un acteur un peu oublié, Elina Labourdette et quelques autres. La musique du film, j'ai dit Jacques Demy, donc la musique de film, évidemment, elle était signée de Michel Legrand. Et on va écouter un extrait de cette bande originale, Lola, dans 24 notes secondes.
Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager les hommages des hommes âgés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi Lola. Celle qui dit v'lin bateau, v'lin samedi, v'la des matelots, on va tourner, on va danser, on va flirter, sans y penser, on va rire et virevolter, mais quand elle met le holà, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là, c'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt, et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées d'espoir, si vous les connaissiez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre mille, entre cent ou trois, qui elle dira, toi, 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 c'est moi, Lola.
Ben voilà, c'était elle, c'était Lola, un extrait de la bande originale de Lola, de Jacques Demy, le premier long-métrage de Jacques Demy qui avait déjà tourné un certain nombre de courts-métrages, documentaires et autres, comme le sabotier du Val-de-Loire ou le bel indifférent. Et si Lola rencontra un certain succès, ben, ce ne fut rien par rapport au film qui suivit en l'espèce Les Parapluies de Cherbourg. Je vais bien me garder de vous susurrer quelques paroles des Parapluies de Cherbourg. Je ne pourrais pas. Ah ben oui, forcément, j'étais obligé. Là encore, une collaboration avec Michel Legrand, mais tout ça relève de la légende et surtout d'une autre émission, puisque l'émission de ce jour, elle est consacrée à Carlo Ponti, qui était le coproducteur de ce film, alors avec Georges de Beauregard, un nom qui vous sera sans doute complètement inconnu. Mais Georges de Beauregard fut dans les années 60, le producteur de la Nouvelle Vague. Et c'est grâce à lui, notamment, que Godard, bon, Demi n'est pas vraiment dans la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut ou d'autres ont trouvé le chemin des écrans. Et c'est pour ça que c'est bien de faire une émission sur un producteur, parce que des fois, ce sont des gens courageux qui prennent des risques. Maintenant, moins, puisqu'on ne fait plus que des suites. Mais avant, les gens prenaient des risques pour mettre en avant des acteurs peu connus, ce qui était le cas d'Anouk Aimée à l'époque, et aussi des réalisateurs en devenir, comme Jacques Demi tournant son premier film. Alors, le film dont nous allons évoquer un extrait musical. C'est pas vraiment un cinéaste en devenir, même si en 1963, Jean-Luc Godard n'en était qu'au début de sa carrière, mais il était déjà très très connu, notamment par À bout de souffle, son premier long métrage avec Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg, bien sûr. Alors quant à la vedette principale de ce film, que dire ? Brigitte Bardot, en 1963, elle était quand même relativement connue, il faut bien le reconnaître, mais par contre, peu de gens auraient parié sur l'alliance des deux, c'est-à-dire mettre Brigitte Bardot, révéler quelques années plus tôt avec « Et Dieu créa la femme », la bombe sexuelle des années 60, soyons clairs, la bombe féminine tout court, avec un réalisateur très intellectuel, avec des films fort difficiles. Et après, À bout de souffle, il y en a eu certains, notamment Les Carabiniers ou quelques autres, qui avaient un peu pris de court la critique. Du coup, on s'attendait à quelque chose d'assez bizarre. Mais le mépris, inspiré d'un roman d'Alberto Moravia, avec aux côtés de Brigitte Bardot, Jacques Palance, Michel Piccoli, il y a même Jean-Luc Godard qui joue l'assistant réalisateur, mais il joue l'assistant réalisateur de Fritz Lang, puisque parmi les originalités du film, eh bien, il y avait le fait de donner à l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma mondial, alors d'abord allemand, puis américain, de donner le rôle principal de ce qui était un film sur le tournage d'une adaptation de L'Odyssée. Eh bien oui, comme on se retrouve, c'était L'Odyssée, et du coup, le propos était assez bizarre, il faut bien le reconnaître, et à la fin, Jean-Luc Godard fut obligé de rajouter au début du film une scène érotique où on voit Brigitte Bardot toute nue, mais couché sur le ventre, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans la caméra suit son corps, et pendant ce temps-là, eh bien, Michel Piccoli égrène des paroles qui depuis sont restées fameuses, puisqu'ironiquement, c'est cette scène imposée et devenue cultissime. Alors je me lance. « Tu aimes mes yeux ? Oui. Tu aimes ma bouche ? Je fais Brigitte Bardot, hein, vous l'avez deviné. Oui. Tu aimes mes seins ? Oui, etc. » Et « Alors tu m'aimes ? Oui. » Voilà, ça c'est du Jean-Luc Godard. Quant à la musique, eh bien, la musique, vous l'avez forcément entendue, ne serait-ce que dans une publicité. Car la chanson de Camille étant le nom de l'actrice interprétée par Brigitte Bardot, elle est signée Georges Delerue et vous l'avez vraiment entendue dans 24 notes secondes ou ailleurs. La chanson pour Camille, extraite de la bande originale du Mépris, et une musique signée de Georges Delerue, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous manque, Georges Delerue? Un film de Jean-Luc Godard tourné en 1963. La petite histoire raconte que Jean-Luc Godard, qui n'était pas réputé pour avoir des musiques originales dans ses films, et par la suite il prouvera d'ailleurs qu'il empruntait plutôt à Beethoven qu'à Georges Delerue, si je puis dire, eh bien il fut totalement conquis par cette musique. Comment pourrait-il en être autrement? Et du coup, il l'a mis partout dans son film, ce qui n'était pas forcément ni l'intention, ni l'appréciation de Georges Delerue, mais il avait peut-être pas tort, puisque du coup, impossible de ne pas associer Le Mépris à cette musique, et j'imagine l'inverse, impossible de ne pas associer cette musique au Mépris. La petite histoire raconte aussi, et c'était juste avant de conclure, pour souligner l'importance des producteurs, qu'au départ, eh bien, Carlo Ponti voulait engager dans les rôles principaux. Aussi étonnant que ça paraisse, Kim Novak et Frank Sinatra. Alors, on ne voyait pas vraiment Frank Sinatra dans le rôle finalement tenu par Jack Palance. Ensuite, eh bien, ça ne put pas se faire. Donc, il dit, on va mettre Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Évidemment, sa femme avec son meilleur, acolyte. Mais ça ne marcha pas non plus. Finalement, on dut se contenter, entre guillemets contenter, de Michel Piccoli et de Brigitte Bardot. Ma foi, le reste appartient à l'histoire, mais c'est aussi l'occasion de souligner, puisque on l'a peu évoqué, eh bien que Carlo Ponti produisit un certain nombre de films importants avec son épouse, qu'on vit notamment dans Hier, Aujourd'hui et Demain en 1963, ou dans Mariage à l'italienne, un petit bijou, Mariage à l'italienne, de Vittorio De Sica en 1964. Et puis aussi, et ça on en appelle le temps de l'évoquer, mais enfin en même temps c'est une musique qu'on a déjà entendue dans 24 notes secondes. Carlo Ponti fut aussi à l'origine de l'adaptation du Docteur Jivago de David Lean en 1965, musique de Maurice Jarre bien connue, Julie Christie, Omar Sharif d'après Boris Pasternak avec Sir David Lean à la réalisation. Et puis il y a eu aussi Blue Up de Michelangelo Antonioni, bref il y a eu un tas de films qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, 140 jusqu'à ce qu'en 1979 eh bien, Carlo Ponti soit rattrapé par de petits arrangements financiers que le fisc italien décida de ne pas laisser passer. Et en fait, l'homme transporta ses affaires au Canada, mais il ne s'en remit jamais vraiment. Et les années 80 marquèrent la fin de sa carrière de producteur avant qu'il ne décède à Genève. Donc, comme dit au début de l'émission, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2007, si vous voulez tout savoir. Allez, on va conclure en écoutant un extrait d'une bande originale signée Jerry Goldsmith. Un petit silence, les aficionados de 24 notes secondes savent que c'est mon Dieu. Un film catastrophe tourné quelque part dans les années 80 avec Sophia Loren justement et Richard Harris dans les rôles principaux. Ça s'appelle Le Pont de Cassandra en français, The Cassandra Crossing in English. Et on se quitte sur ça. Ciao Carlo Ponti et merci pour tout. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Ciao, arrivederci.